Les Années-Lumière, édition du 15 mars 2009. Toute une surprise. Pour la première fois dans l'histoire du sida, un patient semble s'être complètement débarrassé du virus. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors cette émission, on la commence avec le président Barack Obama qui vient de faire une sorte de retour aux souches en réautorisant la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Qu'est-ce que ça veut dire pour la médecine et pour la science en général? Gaëlle Lucia Berdou, vous nous parlerez ensuite d'un noble et grand sentiment, l'appel de l'espace.
Celui de 16 aspirants astronautes encore en lice dans la campagne de recrutement de l'Agence spatiale canadienne. 16 candidats qui seront présentés au public demain.
Hugues de Roussan, les Jeux d'hiver de Vancouver s'en viennent. Qui dit hiver dit aussi caprices de la météo, des caprices qu'on veut prévoir le mieux possible.
Oui, Yannick, car des prévisions fiables, surtout quand elles sont bien utilisées, cela fait la différence entre un podium et une quatrième place.
Nous irons ensuite au courrier des auditeurs, une question sur les croissants de lune dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, puis à la chronique des années-lumière. Cette semaine, Yves Gingras s'intéresse à un précurseur de Darwin, le naturaliste français Lamarck, qui a publié son livre sur le transformisme il y a 200 ans cette année. Deuxième heure, je vais donc la commencer avec ce patient de Berlin et avec cette histoire surprenante. A-t-on réussi à guérir, et le mot reste vraiment entre de gros guillemets, a-t-on réussi à guérir une personne infectée par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, le virus du sida? Nous aurons ensuite un petit journal de la science et pour terminer, Chantal Srivastava, vous allez recevoir l'auteur de la semaine et même un peu plus que l'auteur de la semaine.
Un deux pour un, Yannick, une romancière et un archéologue. Elle s'appelle Dominique Fortier, elle a écrit « Du bon usage des étoiles », un roman qui raconte la dernière expédition de John Franklin pour découvrir le passage du Nord-Ouest en 1845. L'archéologue, c'est Robert Grenier. Il cherche encore aujourd'hui les épaves des deux navires alors disparus.
Et pour commencer donc, les cellules souches. Alors, décision remarquée lundi du président américain Barack Obama qui a levé l'interdiction de financer la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines avec des fonds provenant du gouvernement fédéral. Cette interdiction avait été imposée le 9 août 2001 par le prédécesseur d'Obama, George W. Bush, mais elle ne touchait, rappelons-le, ni le secteur privé, ni les gouvernements des États. Quoi qu'il en soit, les milieux de la recherche américains ont fort bien accueilli cette décision et le message pro-science qu'elle envoie. Monsieur Obama a d'ailleurs expliqué lundi qu'il voulait, je cite, « restaurer l'intégrité scientifique du processus de décision gouvernementale ». Explication et commentaire par le docteur Jacques Galipeau, oncologue à l'Hôpital général juif de Montréal et directeur de la thématique thérapeutique du réseau canadien des cellules souches. Je lui ai d'abord demandé ce que cette décision changeait pour ses collègues américains.
Auparavant, il ne faut pas utiliser les fonds publics fédéraux qu'ils obtiennent. Typiquement, c'est 90-95% des fonds de recherche des chercheurs américains. Ils ne pouvaient pas les utiliser de façon directe ou indirecte pour faire de la recherche dans le laboratoire, des cellules souches embryonnaires pour trouver des nouveaux traitements. Maintenant, ils vont pouvoir le faire. Auparavant, il fallait qu'ils obtiennent des subsides d'autres organismes que des fonds publics fédéraux. Mais maintenant qu'ils vont pouvoir le faire, théoriquement, la recherche sur les cellules souches embryonnaires pourrait augmenter, mais je vous mets en garde, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille avec des cellules souches embryonnaires, et je crois que cette plateforme technique-là était transitionnelle. Maintenant, on est en train de passer à la deuxième génération.
Certaines personnes disent que c'est un peu trop tard, cette décision du gouvernement américain, parce que
les cellules souches embryonnaires, donc dérivées d'embryons, c'était ça qui était en discussion, c'est plus tellement intéressant. On a maintenant des cellules souches adultes ou des cellules souches adultes reprogrammées. Est-ce que c'est vrai qu'on n'a plus besoin de cellules de recherche sur les cellules souches embryonnaires provenant d'embryons humains?
Ça demeure un outil de recherche, d'investigation pour comprendre les mécanismes fondamentaux de la vie et puis de l'embryogenèse. Il y a plusieurs centaines d'études cliniques de par le monde, légitimes, au Canada, aux États-Unis, en Europe, qui examinent l'utilisation de cellules souches. Virtuellement aucune d'entre elles utilise des cellules souches embryonnaires. Aucune.
Alors, qu'est-ce qu'on utilise?
Des cellules souches dérivées d'adultes. Soit de la moelle, soit de la moelle osseuse, soit du sang de cordon. Ce sont grosso modo les sources principales. Les cellules souches embryonnaires, pour la première fois, il y a à peine quelques mois, il y a une compagnie privée américaine, Geron, G-E-R-O-N, qui a eu une étude approuvée par le FDA américain pour utiliser des cellules souches embryonnaires pour traiter des patients qui ont eu un traumatisme de la moelle épinière paralysée. Je ne crois pas qu'ils ont recruté de patients encore, mais ça commence. C'est la première étude approuvée de par le monde. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? C'est pas clair à cause de la soi-disant technologie des cellules iPS.
Alors, faut expliquer un peu. Donc, ces fameuses cellules souches de deuxième génération, comme vous dites. Alors, c'est quoi iPS? Qu'est-ce que c'est que ces cellules-là? Qu'est-ce que ça fait?
Ben, c'est petit i, grand P, grand S, un peu comme iPod. Ils voulaient être cute quand ils ont fait des cellules. C'est Inducible Pluripotent Stem Cells. C'est cellules souches pluripotentes inductibles. Et puis, grosso modo, je peux prendre un petit échantillon de votre peau, prendre des fibroblastes qui sont plus embryonnaires, il faut s'entendre, et en utilisant soit des produits chimiques ou du génie génétique dans un plat de pétri, je peux reprogrammer la cellule pour qu'elle adopte des caractéristiques qui ressemblent presque de façon identique à celles des cellules souches embryonnaires dérivées d'embryons. Or, les grands bons des cellules souches embryonnaires dans ce milieu de recherche-là, tous maintenant se sont garochés dans la barque des cellules iPS parce que ça devient maintenant un outil qui a beaucoup plus de flexibilité si on veut développer une thérapie à partir de cellules. On n'a plus besoin de s'embêter avec des embryons, puis toute la chicane autour de ça.
Et on pourrait en plus prendre les propres cellules du malade, donc on n'aurait pas de problème de rejet éventuellement avec ces cellules-là. Hein. C'est important, ça.
C'est très important, l'aspect immunologique. Vous savez, quand on transplante, par exemple, un rein d'une personne qui n'est pas apparentée, ou un cœur ou un poumon, il faut prendre des médicaments immunosuppressifs pour éviter le rejet. Théoriquement, avec des cellules embryonnaires, la même chose serait requise. Mais il faut faire gaffe. Il n'est pas certain que les cellules iPS vont être meilleures que les cellules souches embryonnaires. Il se peut que les cellules souches embryonnaires aient des propriétés intrinsèques qu'on n'a pas encore tout à fait déchiffrées, qui feront qu'au bout de la ligne, ça pourrait être un outil plus intéressant pour le traitement des blessures de la moelle épinière, par exemple. Il y a encore beaucoup de recherches à faire.
Vous, docteur Jacques Galipeau, vous travaillez sur des cellules souches de première ou de deuxième génération?
Ni une ni l'autre. Moi, je travaille avec des cellules souches dérivées de l'adulte. Chez vous, je pourrais prendre une prise de sang puis purifier les globules blancs de votre sang périphérique ou prendre une petite ponction de moelle osseuse. Il faut s'entendre, c'est pas la moelle épinière, c'est deux choses différentes. Et c'est très, très riche en cellules qui ont des propriétés de cellules souches. Et justement, je m'envole sous peu pour la France pour une conférence internationale pour l'utilisation de cellules souches de la moelle pour traiter la sclérose en plaques. Il y a des protocoles cliniques qui se font de par le monde en ce moment pour ces genres de maladies-là. Et je vous dirais que les cellules souches qui vont devenir des traitements en dedans des 5 prochaines années, des traitements qui sont déjà en études cliniques, vont être des cellules souches dérivées de l'adulte.
Je reviens à la décision du gouvernement Obama de cette semaine. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la recherche au Canada?
Absolument, oui. Et l'espoir que nous avons ici, ça va être l'effet d'entrée. Car voyez-vous, en levant le voile sur l'interdit, sur les cellules souches embryonnaires, c'est un petit peu la pointe de l'iceberg. Obama, le message qu'il donne, c'est que l'économie du savoir, c'est réellement là que se trouvent les pistes de solutions à long terme dans un contexte de mondialisation. Et le gouvernement Obama a fait un choix très intéressant. Malgré toutes les difficultés économiques que tout le monde connaît aux États-Unis plus particulièrement, le budget du NIH en 2008 était de 29,6 milliards US. Et en 2009, ils ont choisi de l'augmenter de 25 % à 39,9 milliards US.
39 milliards de dollars américains au NIH, donc, qui est l'organisme qui subventionne, qui finance la recherche dans le domaine de la santé. C'est beaucoup.
Oui, le pendant canadien du NIH, c'est les IRSC, l'Institut de recherche en santé du Canada, qui en 2008 a dépensé 963 millions canadiens. On peut faire un petit ratio mathématique très rapide. Pour chaque dollar qu'un Canadien, le gouvernement fédéral canadien dépense en recherche, le gouvernement fédéral américain va en dépenser 50. Et toute l'histoire des cellules souches, lever le voile, promouvoir la recherche biomédicale, l'économie du savoir, le fait qu'ils mettent de l'argent, qu'ils s'investissent plutôt que de rétrécir les budgets à la recherche aux États-Unis, nous espérons que les instances gouvernementales qui nous donnent des subsides pour faire la recherche ici dans les centres hospitaliers, ici au Canada, fassent la même chose.
Oncologue à l'Hôpital général juif de Montréal, le Dr Jacques Galipeau dirige la thématique thérapeutique du réseau canadien des cellules souches.
Ici Louis-André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion par satellite sur la chaîne Première Plus dès samedi 17h. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet ou en syntonisant notre flux MP3 en direct le dimanche. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
Alors, l'Agence spatiale canadienne est en pleine campagne de recrutement pour trouver de nouveaux astronautes, deux nouveaux en fait. Une opération qui ne s'était pas vue depuis 1992. Voici ce qu'une candidate de l'époque, une certaine Julie Payette, répondait à la question « Pourquoi voulez-vous devenir astronaute ?» C'était il y a 17 ans.
The sense of adventure, I think, is needed to take up a job as demanding as the job of an astronaut. It's a big commitment, it's time-consuming, it has its toll in the family, it's going to change my life completely. If I didn't want it intrinsically somewhere in the gut, then it would be wrong.
La désormais astronaute Julie Payette, donc, qui disait en substance il y a 17 ans qu'il faut avoir ça dans les tripes. Une réponse pleine de passion. Et Gaëlle Lucia Berdou, bien sûr, il en faut de la passion pour affronter ce long processus de sélection.
Imaginez, Yannick, le jour de cette fameuse entrevue, Julie Payette venait de subir des tests sanguins, d'urine, un électroencéphalogramme et même une coloscopie. Et comme on vient de l'entendre, apparemment, elle avait encore assez de volonté pour convaincre un comité de sélection. Alors oui, il faut s'accrocher parce que la compétition est très forte. Pour la campagne actuelle, l'Agence spatiale canadienne a reçu plus de 5500 candidatures pour seulement deux postes à combler. Cette liste, bien sûr, a été écrémée depuis. Elle compte maintenant 16 candidats, des candidats qui seront présentés au public demain à Toronto. Ils ont été reçus en entrevue, bien sûr, pendant ce long processus. Ils ont aussi subi des tests médicaux, psychologiques. Ils ont même essayé un simulateur du fameux bras canadien. Oui. Et pour l'avoir essayé moi-même, je peux vous dire que c'est pas de la tarte. Bref, c'est un processus qui est loin d'être de tout repos, comme nous l'explique le docteur Jean-Marc Comtois, qui est le chef des astronautes canadiens.
On les a mis, les candidats, dans des situations auxquelles ils vont faire face. C'est pas la même chose que l'entraînement spécifique d'un astronaute, mais c'est des situations d'entraînement semblables. S'ils n'ont pas aimé ça, probablement que la carrière d'astronaute n'est pas pour eux. Parce qu'un astronaute, dans sa carrière, c'est entraînement, entraînement, entraînement en préparation à un vol spatial.
Vous les entraînez à quoi, par exemple?
Alors, dans le programme de recrutement, ce qu'on a fait, on les a mis dans des situations semblables où ils devaient travailler, apprendre des nouvelles connaissances sous l'eau, dans des environnements où il y avait des stress thermiques énormes. En particulier, une des sessions, c'était ce qu'on appelait « thermal stress », les stress thermiques, où ils combattaient un feu et par après, ils travaillaient dans une salle qui était en train d'être inondée avec de l'eau très froide. Alors, à ce moment-là, ce qu'on regardait, c'est qu'ils ont eu une journée d'entraînement encore pour comment utiliser l'équipement, comment utiliser les outils qu'on leur offre, comment gérer les situations dans lesquelles ils faisaient face. Et on a observé la façon qu'ils mettaient tout ça en œuvre. On regardait aussi à ce moment-là comment qu'ils font face à des situations difficiles. Physiquement, ils sont fatigués, ils ont froid, ils ont chaud. Comment ils sont capables de gérer ça et comment ils sont capables de continuer à travailler en équipe. Parce qu'on regarde sur la station spatiale, on parle des équipages de 3 présentement, mais qui vont venir des équipages de 6. Et c'est pas évident de travailler dans une boîte qui est à peu près la grosseur de 3 autobus, passer 6 mois ensemble avec des cultures différentes. Puis on ne peut pas partir pour une marche là, si ça ne va pas bien. On est tous pris ensemble. Alors, on a regardé quelles sont les aptitudes des candidats à travailler dans des environnements qui peuvent être très difficiles physiquement et émotionnellement.
Est-ce qu'il y en a qui abandonnent en cours de route, qui se disent « je ne peux pas vivre » ou « je ne veux pas vivre ça »
Oui, on a eu un individu. Mais on a eu plusieurs individus qui sont désistés dans le processus. Il y en a qui y appliquent pour voir comment loin ils peuvent aller. Puis quand ils sont rendus au niveau qu'ils sont satisfaits d'eux-mêmes, ils peuvent se désister. Il y en a d'autres qui réalisent aussi que peut-être que ma contribution au programme spatial canadien, je peux mieux le faire dans ma carrière présente que comme devenir astronaute. Et il y en a d'autres qui voient certainement que la carrière d'astronaute, c'est pas pour eux. Ce qu'on voit à la télévision, c'est romantique, c'est beau. Si on voit l'astronaute qui se retrouve dans l'espace à faire une marche spatiale, ce qu'on voit pas, c'est tous les sacrifices et tout le travail qui a dû être fait pour se rendre à ce point-là.
Oui, alors Jean-Marc Comtois qui parle de sacrifices. Bien sûr, Gaël, hein, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices pour espérer un jour voler dans l'espace.
Oui, parce que les places sont quand même limitées. En fait, les astronautes peuvent espérer un vol spatial une fois tous les 10 ans à peu près. Mm-hmm. Si on prend l'exemple de Julie Payette qu'on entendait tout à l'heure, elle est là depuis 17 ans et elle se prépare en ce moment pour son 2e vol spatial. Et puis, il faut voir aussi comment les missions spatiales vont se dérouler à l'avenir. Les navettes spatiales, elles, vont être mises au rancard l'an prochain. C'est ce qui est prévu. Donc, les futurs astronautes vont éventuellement rallier la Station spatiale internationale comment en Soyouz russe, des nouvelles réalités, donc, pour un travail d'astronaute qui change et aussi pour une sélection des astronautes qui change. On va en écouter à nouveau Jean-Marc Comtois.
Tout individu motivé peut passer 14 à 20 jours dans une petite boîte, dans un petit autobus, et très bien faire son travail. Quand on regarde à quelqu'un qui va passer 6 mois avec 6 autres membres d'équipage, sans aucune chance de retour pour rencontrer sa famille. Non, c'est différent. Alors, les aptitudes psychologiques, les traits, les caractéristiques de personnalité psychologique qu'on recherche sont différents de ce qu'on recherchait en 92. Et on a dû mettre en place des façons ce qu'on puisse mesurer ça. Alors ça, c'est une grosse différence qu'on a entre 92 et cette année.
Est-ce que c'est de plus en plus difficile d'être astronaute?
Très bonne question. Je pense pas. Ça a toujours été difficile d'être astronaute. Au début, quand on ne savait pas ça serait quoi l'impact de l'espace ou de la pesanteur sur le corps humain, on sélectionnait des gens qui étaient en très bonne forme physique et médicale. Plus on apprend, plus on connaît comment travailler dans l'espace, plus on comprend l'impact de travailler dans la pesanteur et dans un environnement isolé, extrême, comme l'espace, où il y a beaucoup plus d'irradiation qu'il n'y a sur Terre, mieux on est capable de diriger nos critères de sélection qui deviennent des critères représentatifs du besoin. Ça, c'est pas plus difficile. C'est que je pense qu'on comprend mieux ce qu'on recherche. Juste les standards médicaux ont beaucoup changé. Depuis les premières années du programme de Gemini et Apollo. Et je pense qu'en comprenant mieux l'effet de l'apesanteur sur le corps humain, la physiologie humaine, on peut se permettre de choisir du monde qui n'aurait pas été choisi dans les années 60, médicalement parlant. Nos tests de sélection sont aussi beaucoup plus précis. Alors, je pense qu'on a moins de chances d'avoir des faux négatifs ou des faux positifs alors qu'on peut mieux sélectionner les individus qui vont être capables de faire une bonne job comme astronaute.
Jean-Marc Comtois de l'Agence spatiale canadienne. Donc, Gaël, dernière étape de sélection, ça commence demain à Toronto.
Et c'est une étape qui dure une semaine d'examens psychologiques et médicaux poussés pour départager ces 16 candidats encore en lice. On saura au mois de mai qui sont les 2 nouvelles étoiles du programme spatial canadien.
Merci beaucoup, Gaël.
Je vous en prie.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Venir en deuxième heure, à Berlin, un patient séropositif traité pour une leucémie semble complètement débarrassé du virus du sida.
C'est la plus grande nouvelle dans l'histoire du sida, avec peut-être la trithérapie, mais encore, c'est le plus près où on a été de la guérison. Donc, je trouve que c'est une nouvelle incroyable.
Les prévisions météorologiques seront d'une importance capitale dans les sports de neige aux Jeux olympiques de Vancouver l'an prochain. Avoir de bonnes prévisions, savoir bien les interpréter, ça peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Le comité organisateur des Jeux et le gouvernement canadien ont dépensé jusqu'à maintenant 13 millions de dollars pour s'assurer des meilleures prévisions possibles, Luc de Roussin.
Oui, et c'est Environnement Canada qui a reçu le mandat de faire des prévisions météorologiques pour les Jeux olympiques. Environnement Canada va utiliser trois programmes de prévision, un à moyen terme, donc quelques jours, un à court terme, on parle de un ou deux jours, et un tout dernier programme pour le très très court terme, et là on parle de quelques heures, voire même de quelques minutes. Et c'est ce dernier programme que Environnement Canada a conçu spécifiquement pour les Jeux. On va écouter Gilbert Brunet, qui est directeur de la division de recherche en météorologie à Environnement Canada, division de recherche qui a créé ce programme de prévision à très court terme.
La première approche pour une prévision à quelques jours demande des modèles de prévision numérique du temps qui sont globales, qui tiennent compte de tous les effets sur la Terre, que ce soit dans l'horizontale ou dans la verticale. Donc, un événement qui se passe sur le Pacifique, par exemple, une grosse tempête sur le Pacifique, peut affecter dans 2-3 jours après coup la région de Whistler. Donc, il faut tenir compte de toute la planète et on appelle ça des modèles de prévision numérique globales. Et dans le cas d'Environnement Canada, on a un modèle qui s'appelle GEM, G-E-M, qui fait ce travail-là.
Et c'est ce modèle-là que vous allez utiliser pour les Jeux de Vancouver?
Oui, pour les échéances à long terme.
Bon, maintenant, pour les échéances à plus court terme et même à très court terme dans l'espace de quelques 10 minutes, 15 minutes d'une compétition.
Alors, dans ce cas-là, on a des versions du modèle GEM qui sont plus comme une loupe, qui agrandissent les détails, qui mettent plus de définition, si vous voulez, sur les effets de montagne, qui peuvent tenir compte aussi d'observations qui sont plus précises, soit par exemple des radars ou des profileurs, des informations provenant de différentes stations météorologiques qui se trouvent maintenant autour de Whistler et de la région de Vancouver. Ça va permettre, disons, de quelques heures à un jour, deux jours, avoir encore plus de précision. Et dans les 6 premières heures, on a développé, et ça c'est tout nouveau, un programme où on utilise des observations radar et autres, et des méthodes statistiques pour vraiment bien comprendre ce qui va se passer dans les quelques heures qui vont suivre la prévision.
Et évidemment, Hugues, un des défis que va devoir relever Environnement Canada, ça va de soi, c'est la fiabilité des prévisions.
Oui, et cette fiabilité, c'est vraiment le nerf de la guerre. Disons tout de suite, Yannick, quand même, qu'en raison des progrès technologiques des dernières années, les prévisions sont de plus en plus fiables et précises. Par exemple, en 1960, la fiabilité des prévisions à un jour, c'est l'équivalent des prévisions à 5 jours aujourd'hui même. Et même malgré ces progrès, malgré le tout dernier programme mis au point par Environnement Canada pour les Jeux, assurer la fiabilité des prévisions météorologiques en région montagneuse, ce n'est pas évident. On écoute à nouveau Gilbert Brunet.
C'est en fait le défi. En milieu de montagne, les prévisions sont très difficiles. Mais en même temps, le fait que la montagne est là, elle force des événements. Je m'explique. Par exemple, un vent arriverait de l'ouest sur la montagne et elle est chargée d'humidité. Cette masse d'air est obligée de monter en altitude. Elle se refroidit et elle va précipiter. Donc, il est très clair que la plupart du temps, un vent très humide qui frappe une montagne, comme à Whistler, quand l'air va monter le long de la montagne, elle va faire tomber de la neige. On sait très bien qu'il va se passer un événement à cet endroit-là. Mais par contre, il faut bien représenter cette montagne dans les modèles. Et c'est pour ça que le modèle le plus raffiné que nous allons utiliser a une résolution spatiale de 100 mètres. Donc, les grilles, les points de grille, la définition, ou si vous voulez, les pixels de la représentation de nos montagnes dans les modèles est aux 100 mètres. C'est quand même pas extrêmement précis relativement à une personne, mais suffisant pour pouvoir faire une bonne prévision des précipitations de neige, par exemple, sur Whistler pendant les Jeux olympiques.
Et c'est quand même pas mal, 100 mètres.
Oui, c'est pas mal. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux en ce moment. Tout ça dépend effectivement aussi des outils technologiques que nous avons pour faire ces prévisions et faire les calculs, parce que ce sont des modèles, ce sont des logiciels qui roulent sur des ordinateurs. En fait, qui roulent sur les ordinateurs les plus puissants au monde. En ce moment, l'ordinateur d'Environnement Canada est l'ordinateur le plus puissant au Canada, qui est opérationnel. Et ça fait beaucoup de calculs, des millions et des millions de calculs à la seconde pour pouvoir justement faire les prévisions correctement pour un tel site olympique.
Donc vous allez pouvoir mieux prédire la météo, mais vous ne pourrez pas la changer.
Malheureusement, on ne fait pas de modification du temps. Par contre, sur les pentes, quand il manque de neige, on peut faire de la neige. Le grand défi aussi à Whistler, ça va être de prévoir très bien les différentes conditions de météorologiques à différentes altitudes, parce que vous savez, parfois, il peut neiger en haut de la montagne et pleuvoir dans le fond de la vallée, ce qui est assez spécial pour le site olympique. Donc, les équipes olympiques nous font beaucoup de pression pour qu'on puisse donner des bonnes prévisions de cette variabilité dans la verticale.
Alors, Hugues, les Jeux, hein, c'est dans quoi? Dans moins d'un an maintenant? Est-ce qu'Environnement Canada est prêt?
Ben, ça fait 2 ans maintenant que Environnement Canada a commencé à tester ses programmes de prévision, soit durant les mois de janvier, février et mars. Ce sont des tests qui ont été faits pendant et en dehors des compétitions. Le but de ces tests, c'est de parvenir durant les Jeux à avoir des prévisions qui sont fiables à 100% ou presque. Mm-hmm. Les attentes du comité organisateur des Jeux sont donc grandes. On écoute Éric Frémont, qui est responsable du site olympique Cyprus près de Vancouver-Ouest, où vont se dérouler les épreuves de ski acrobatique et de surf des neiges.
On leur demande presque une réalité de, pas 100%, mais presque pour la journée même. Et puis c'est pour ça qu'ils se pratiquent. Ça fait 2 ans aussi qu'ils ont les mêmes mondes qui viennent pour leur période de temps. Et puis, pas cette année, mais l'an passé, on avait la Coupe du monde de freestyle. Il pleuvait toute la journée. La personne d'Environnement Canada nous a dit, écoute, là, on dirait que si je regarde les systèmes et le vent et puis comment on pense que le système va arriver, vers 2 heures de l'après-midi, ça devrait commencer à s'éclairir et puis vous devriez être capable. On a pris une décision à ce point-là et puis c'est arrivé que je pense qu'il y avait une différence de 5 minutes et puis on avait pu organiser la finale de l'événement. Pas de problème.
Donc, ça vous donne à vous, les organisateurs, aussi une marge de manœuvre pour décider si vous devez retarder ou même annuler pour une journée et reprendre la compétition le lendemain?
Oui, ça nous aide vraiment à prendre toutes ces décisions-là. On ne prendra jamais une décision finale juste basée sur la météo. On va vraiment se présenter le matin même à la compétition et prendre la décision une fois qu'on est là sur site. Mais ça nous aide vraiment à planifier si, disons, on sait qu'il va y avoir de la mauvaise température. Si je sais qu'on va recevoir 50 cm de neige pendant la nuit, ben moi, je peux me préparer. Je peux dire à mes volontaires et à mon monde de rentrer à 3 heures du matin au lieu de rentrer à 7 heures du matin, qu'on puisse vraiment commencer à préparer la piste.
Le programme d'Environnement Canada est fiable à 100 mètres près. C'est-à-dire qu'ils sont capables de cibler un endroit à 100 mètres près pour vous dire à tel endroit, à 2 heures d'après-midi, dans une demi-heure, il va se passer ça.
À ce point-ci, ils m'ont montré, pas à 100%, mais ils m'ont montré souvent que oui, ils peuvent se joindre à ce point-là. Ils ont mis des employés sur chacun des sites pour vraiment étudier la météo locale du site, qui est très important parce que c'est pas comme faire de la météo sur un endroit plat où est-ce qu'il n'y a pas de montagne. Les montagnes, ça tient des nuages. Les nuages peuvent être retardés ou avancés un peu plus. Mais vraiment, les vents, la précipitation, ils ont très, très bien étudié ça. Mais du côté, ce qui est vraiment dur, c'est les nuages, comment ils se tiennent dans les montagnes, comment ils sont pris en haut des montagnes. Et ensuite de ça, moi, mon site, c'est la première montagne qui est la plus proche de l'océan à Vancouver. Et puis, aussitôt qu'il y a un système qui rentre, c'est moi qui le reçois le premier à tous les sites. Et puis, souvent, ils peuvent se prendre là. On se retrouve avec des grosses tempêtes de neige. Puis, tout d'un coup, ça peut s'éclaircir extrêmement rapidement aussi.
Alors, Hugues, petite question pour terminer. Est-ce que ces prévisions, est-ce que tout le monde, est-ce que tous les sports s'en servent de la même manière?
Non, Yannick, ce sont en fait des prévisions à la carte, si je peux m'exprimer ainsi, selon le sport, selon l'endroit, selon la journée où se déroule la compétition. Donc, ce ne sont pas les mêmes informations qui intéressent les organisateurs, les entraîneurs ou les athlètes. Chaque sport, chaque site a ses propres besoins. On écoute à nouveau Éric Frémont.
C'est un peu différent. Chaque sport est un peu différent. Moi, ce que j'ai besoin du côté freestyle et snowboard, comparé aux événements de vitesse, sont très différents. Comme eux, s'ils ont vraiment un peu de problèmes de visibilité en vitesse, parce que les athlètes, ils vont au-dessus de 100 km/h, c'est très important. Moi, de mon côté, si j'ai pas une visibilité parfaite, c'est pas aussi grave. C'est vraiment chaque sport extérieur a des critères différents pour la température.
Est-ce que ça veut dire que vous avez des informations très, très précises que vous demandez à Environnement Canada que ne demanderait pas, par exemple, le ski nordique ou le ski alpin?
Exactement, oui. Ce qui est important pour le saut acrobatique, le vent, très, très critique pour moi parce que les athlètes, ils vont jusqu'à 65, 70 pieds dans les airs. Ils font toutes sortes de manœuvres et puis doivent atterrir. Et puis, du côté des autres sports, le vent peut-être n'est pas aussi, à part le saut en longueur ou le saut nordique, tu sais, le vent n'est pas aussi critique que moi j'ai besoin. Ou, exemple, pour le demi-lune, le half-pipe, si on reçoit beaucoup de neige ou pas beaucoup de neige dans le half-pipe, ça nous fait des tendances à faire des décisions différentes.
Et ça vous demandera plus de travail pour préparer la piste si ça tombe.
Beaucoup plus de travail si ça tombe. Comme du côté alpin, je sais qu'en géant ou en slalom, leurs températures sont pas parfaites. Comme la visibilité n'est pas parfaite, c'est pas aussi critique que la descente ou le super géant. Mm-hmm. Et puis moi, tu peux comparer mes sports un peu. La visibilité, c'est pas aussi important. Les vitesses maximales de mes athlètes en P-géant, en parallèle géant ou en ski cross ou snowboard cross, ça va monter jusqu'à à peu près 70-80 km peut-être. Et puis, c'est beaucoup moins grave que du côté alpin de descente.
C'était Éric Frémont, responsable du site olympique à Vancouver Ouest. Merci beaucoup, Hugues.
Merci.
Et c'est l'heure du facteur.
Oui, bonjour, je suis Raymond Ouellet, je vous appelle de la ville de Québec. Il y a un dicton qui affirme que la Lune, lorsqu'elle a la forme d'un C, comme croître, elle décroît, et lorsqu'elle a la forme d'un D, elle croît. Si la Lune croissante forme un D ici au Québec, est-ce qu'un observateur aux antipodes devrait voir un C? Et puis, deuxième question, est-ce que c'est possible qu'au Québec, la barre du D ou la partie vide du C, là, selon que les croissantes ou décroissantes, que cette barre-là ne soit jamais parallèle avec l'horizon? Alors, merci de répondre à cette interrogation.
Alors, pour répondre à M. Ouellet, Gaël Lucia Berdoux a joint Benoît Villeneuve, astrophysicien, professeur au Cégep Édouard Montpetit à Longueuil et co-auteur du livre « Astronomie et astrophysique ».
M. Ouellet, à propos des lettres et de la perception qu'on a du C et du D, en effet, lorsqu'on pense du Québec, donc de l'hémisphère nord, et qu'on s'en va progressivement vers l'hémisphère sud, on se trouve à petit se mettre littéralement la tête en bas. Alors, c'est certain que lorsque la Lune dans l'hémisphère nord ment et qu'elle est en train de croître et qu'elle a non pas l'air d'un C, mais bien d'un D alors qu'elle est en croissance, ben vu de l'hémisphère sud, la tête en bas, ce C-là aura l'air d'un D et vice-versa. Et bien sûr, puisque en allant se mettre la tête en bas, chemin faisant, on va passer par l'équateur où on sera à mi-chemin, on aura cette espèce de position angulaire de la partie, appelons-la là, la frontière entre le côté du C et l'autre côté, qui se retrouvera être à peu près à l'horizontale ou parallèle à l'horizon, ce qui n'arrivera pas évidemment donc chez nous.
Donc, si on est dans l'hémisphère sud, la Lune dit plutôt la vérité, le dicton est à l'envers?
Le dicton est tout à fait à l'envers et la Lune se met à dire la vérité.
Et est-ce qu'il y a un truc, si on est à l'équateur, pour savoir si la Lune croît ou décroît?
En fait, si on n'est pas pressé, on attend au fil des jours, mais bon, blague à part, au moment où la Lune est dans sa phase de croissance, c'est sa partie ouest qui est illuminée. Alors que lorsqu'elle est dans sa phase décroissante, c'est sa partie est qui est illuminée. Et ça, ça ne trompe pas, parce qu'en fait, il y a toujours 50% de la Lune qui est illuminée. Les phases de la Lune, le fait qu'on envoie des parties toujours plus grandes jusqu'à la pleine Lune, puis ensuite progressivement de plus en plus petites, sont absolument pas liées à des effets d'ombre.
Non, c'est pas comme une éclipse, par exemple.
Ah non,
c'est pas la Terre qui passe devant, entre la Lune et le Soleil.
Absolument pas. En fait, il y a toujours 50% de la surface de la Lune qui est illuminée, et 50% bien sûr dans l'ombre, et comme la Lune tourne autour de la Terre tranquillement pas vite, ça lui prend à peu près un peu plus que 27 jours. Donc, au fil des jours, la position qu'on occupe, nous, par rapport à la Lune, change, de sorte que parfois, on réussit à percevoir une plus grande ou une plus petite fraction de cette partie illuminée. Mais il n'y a pas d'effet d'ombre qui serait causé par la Terre, par exemple. Dans ce cas-là, on parlerait d'une éclipse de lune, ce qui est un phénomène complètement différent. Lorsque la Terre s'insère littéralement entre le Soleil et la Lune, la Terre fait de l'ombre. Et si cette ombre couvre la Lune, eh bien, on a une éclipse de Lune.
Et qu'on voit simplement un croissant de cette Lune ou une demi-Lune ou une pleine Lune, on en voit de toute façon toujours la même face. Comment
oui, ça
se fait?
Oui, c'est intéressant. C'est que la Lune tourne autour de la Terre, je le disais, en 27 jours et un tiers. Mais elle tourne aussi sur elle-même et elle le fait exactement au même rythme.
C'est incroyable. Drôle de coïncidence.
Non, c'est pas une coïncidence. Ce sont les effets de marée que la Terre provoque sur la Lune. La plupart des gens savent que la Lune a un lien avec les marées sur la Terre, mais il faut réaliser que la Terre a historiquement provoqué des effets de marée, mais là, on parle de marée rocheuse. Donc, la Terre a été à l'origine d'effets de marée sur la Lune qui a provoqué le ralentissement de sa période de rotation jusqu'au moment où la rotation de la Lune sur elle-même s'est synchronisée avec sa période de révolution autour de la Terre, de sorte que il y a une espèce de renflement de marée permanent qui est continuellement aligné sur la Terre. C'est ça qui est à l'origine du fait que les deux périodes sont synchronisées, de sorte que la partie que nous on voit, d'ailleurs qu'elle soit éclairée ou non, la partie qui nous fait face, c'est toujours la même.
Je vous remercie beaucoup, Benoît Villeneuve, pour
ça
ces explications.
Plaisir.
Gaëlle, Lucia Berdou interviewait Benoît Villeneuve, astrophysicien. Alors, pour nous joindre, pour nous poser vos questions, vous pouvez le faire par téléphone. De la région de Montréal, c'est le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, c'est le 1-800-752-9050. Puis aussi le courriel lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière, cette semaine avec Yves Gingras, historien des sciences. Bonjour Yves.
Bonjour.
Alors Yves, on est en pleine année Darwin. Hein? On a eu notre dimanche avec Darwin à Radio-Canada. On célèbre donc le 200e anniversaire de la naissance de Darwin en 1809, le 150e anniversaire de la publication de son livre « L'origine des espèces » en 1859. Bref, on n'en a que pour Darwin, mais vous allez nous dire qu'il ne faut pas oublier un autre évolutionniste, le français Lamarck, qui a publié son livre il y a 200 ans précisément, un autre anniversaire, en 1809. Ça s'appelle « La philosophie zoologique ». C'est un évolutionniste avant Darwin, Lamarck?
Oui, Lamarck est non seulement un évolutionniste avant Darwin, mais au fond, c'est un peu le véritable père de l'évolutionnisme. Parce que la philosophie zoologique qui paraît en 1809 n'est pas bien sûr la première fois qu'on énonce l'idée que les espèces se transforment, d'où le terme de l'époque qui est davantage le mot « transformisme. Et c'est surtout après Darwin, tranquillement après Darwin, qu'on va remplacer le mot transformisme par évolutionnisme. Au fond, c'est exactement la même idée. C'est l'idée que les espèces se transforment. Donc, bien que Lamarck n'ait pas été rigoureusement le premier, parce qu'on sait d'ailleurs que Erasmus Darwin,
le grand-père,
dans la zoonomie au milieu des années 1790, avait déjà lancé cette idée que les espèces... Donc, c'est un peu dans l'air. Mais lui, la force du livre
de Lamarck,
c'est que c'est une théorie, le mot le dit, philosophie zoologique, ça veut dire théorie des espèces, au sens de philosophie naturelle du 17e et du 18e siècle.
Oui.
Et donc, Lamarck est quelqu'un qui est un penseur systématique. Mais qui était ce fameux chevalier de Lamarck, de son véritable nom, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, chevalier de Lamarck. Donc, comme c'est très long, on va l'appeler le plus souvent le chevalier de Lamarck au début du 19e siècle. Ou simplement Lamarck. Et donc, ça nous rappelle qu'à la fin du 18e, et c'était vrai pour Darwin aussi, il n'existe pas cette chose qui est actuelle, qui est le chercheur professionnel, le professeur-chercheur. Il existe, au fond, des gens qui sont notaires, avocats, comme médecin, et s'intéresse un peu par intérêt personnel à la science. C'est le cas de Lamarck, qui est d'abord un militaire et qui va abandonner donc sa carrière de militaire vers 1768, après avoir été nommé sous-lieutenant. Il abandonne ça, il s'installe à Paris. Il était né en 1744, donc on peut dire vers l'âge de 25 ans. Il décide, 26 ans, de s'installer à Paris et il commence à s'intéresser à toutes sortes de choses. C'est quelqu'un qui est éclectique, donc il a publié sur la météorologie. Il va publié pendant plusieurs années un annuaire météorologique. Il va s'intéresser aux phénomènes de physique et il va travailler d'ailleurs pendant longtemps sur un livre qui va paraître une quinzaine d'années après ses travaux, qui s'appelle, au fond, il s'intéresse à toutes sortes de choses, dont le prodrome, par exemple, en 1799, prodrome d'une nouvelle classification des coquilles. Il va s'intéresser aux recherches sur les causes des principaux phénomènes physiques. Donc, on voit qu'il s'intéresse à plusieurs choses. Mais finalement, il devient connu par des gens de l'Académie des sciences et il finit par avoir un poste au Muséum d'histoire naturelle, qui existe encore à Paris, qui est l'ancien Jardin des plantes. Et on lui offre un poste que personne d'autre voulait. C'est professeur de zoologie des insectes et des vers.
Spécialisé.
Et donc, en travaillant sur ça, il va nommer d'ailleurs une chose qui est restée, c'est le règne des invertébrés.
Oui.
C'est lui qui nomme les choses invertébrées. Alors,
venons-en à sa philosophie zoologique et à son transformisme quand même.
Donc, effectivement, il travaille sur plusieurs choses et il publie ça. Il devient transformiste vers 1800. Il se dit, ah, il y a évolution des espèces et sa synthèse par an 1809. Les deux grandes lois qui synthétisent ce qu'on va appeler plus tard le lamarckisme, c'est la loi de l'usage et du non-usage. Par exemple, on pense à l'appendice chez les humains qui ne sert à rien, on peut penser qu'elle avait une fonction il y a quelques centaines de milliers d'années et que cette fonction-là s'est perdue parce qu'on n'utilisait plus cette fonction-là et donc elle s'est rapetissée, elle est donc disparue. La loi de l'usage et du non-usage. Et la deuxième loi qui est la plus connue, celle de l'hérédité des caractères acquis, c'est que dans l'environnement, on est amené à faire des choses et chez Lamarck, on a le fameux exemple de la girafe.
Avec son grand cou.
Elle a son grand cou. Pourquoi? Parce qu'elle était amenée à manger toujours plus haut dans les arbres. Et donc, ce trait phénotypique, donc qui est dû à l'environnement externe, ce serait transmis jusqu'à l'hérédité, qui est un terme à l'époque générique. On ne connaît pas, bien sûr, les formes de l'hérédité. Le problème de Lamarck, si on peut dire, c'est l'arrivée, si on fait un grand saut dans le temps, du livre de Darwin.
1859.
Et on peut dire que c'est vraiment le livre de Darwin qui, en un sens, éclipse le livre de Lamarck, tout en le ramenant un peu sur la scène. Parce qu'en France, face à Darwin, on va rappeler Lamarck, qui a été un peu oublié en France aussi. Pourquoi? Parce qu'un des grands dominateurs très puissants en France dans les années 1820, qui est un ennemi de Lamarck, c'est Georges Cuvier. Or, Georges Cuvier, qui est puissant, qui est secrétaire de l'Académie des sciences de Paris, est un fixiste. Donc, il va tout faire pour éliminer Lamarck. Donc, Lamarck a été donc mis de côté un peu et paradoxalement
éclipsé,
réapparu un peu grâce à Darwin, mais disparu parce que la force de Darwin, c'était non seulement de trouver un mécanisme à l'évolution, alors que chez Lamarck, c'est une force d'évolution intrinsèque à la vie qui est donc dirigée, alors que chez Darwin, c'est le produit de variations aléatoires suivies d'une sélection
par l'environnement. Donc Darwin expliquait alors que Lamarck n'expliquait pas. On fait un grand saut dans le temps en conclusion. Donc Darwin a éclipsé Lamarck. Est-ce que Lamarck est vraiment mort aujourd'hui, Yves Gingras, en un mot?
Dans ces deux explications de l'hérédité des caractères acquis, c'est mort. Mais par les travaux très récents qu'on appelle l'épigénétique, qui s'intéresse au développement, on appelle souvent cette forme-là, dans les critiques actuelles, une forme de néo-lamarckisme. Mais ce n'est pas vraiment du néo-lamarckisme parce que ça n'attaque pas le gène au sens de l'hérédité du noyau de l'ADN. Mais donc, Lamarck n'est pas mort. Il y a une forme de résurgence, mais qui ne correspond pas à ce que Lamarck proposait lui-même comme idée, qui était une vision très dirigiste, déterministe de l'évolution.
Yves Gingras, merci beaucoup. Merci d'avoir quand même rappelé la mémoire de ce chevalier de Lamarck. Merci Yves.
Ça fait plaisir.
Alors, c'est la fin de la première heure. Ce soir, à 18h30, à Découverte, à la télévision de Radio-Canada, entre autres, la cyberdépendance et le pipi qui sauve des vies. Oui, vous revenez après une nouvelle pour la deuxième heure des Lumières. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu toujours et l'équipe pour vous présenter cette deuxième partie du magazine d'actualité et de culture scientifique de Radio-Canada. Alors cette deuxième heure, elle commence avec une histoire de sida vraiment hors du commun. Elle se poursuit avec le petit journal de la science et elle va se terminer avec l'auteur de la semaine et son double. L'auteur, c'est Dominique Fortier, qui vient de publier un roman
sur la dernière expédition de Franklin dans l'Arctique. Ça s'appelle « Du bon usage des étoiles ». Et puis son double, le double de l'auteur, c'est l'archéologue Robert Grenier qui cherche les vestiges de cette expédition dramatique dans l'Arctique.
Moi, je trouve que c'est la plus grande nouvelle dans l'histoire du sida, avec peut-être la trithérapie, mais encore, c'est le plus près où on a été de la guérison, le plus près du bien. On sait que cette personne-là n'est pas guérie, mais c'est le plus près qu'on a été de la guérison. Donc, je trouve que c'est une nouvelle incroyable.
Effectivement, c'est une histoire tout à fait étonnante. Une nouvelle tellement bonne qu'on a du mal à y croire, comme vient de le dire le docteur Régent Thomas de la clinique L'Actuelle à Montréal. Pourtant, elle est vraie. Elle a été publiée dans une des revues spécialisées médicales les plus respectées dans le monde, le New England Journal of Medicine, et elle nous vient d'Allemagne, où j'ai joint l'une des personnes qui sont à l'origine de cette histoire, la docteure Suzanne Ganepola, du département d'hémato-oncologie de l'hôpital universitaire Charité à Berlin. La docteure Ganepola nous parle de ce patient, un homme dans le début de la quarantaine, séropositif depuis 10 ans et sous traitement, sous trithérapie donc, depuis 4 ans.
Il est venu à l'hôpital à cause d'une massive fatigue. Il avait eu des hémorragies et puis on a fait le diagnostic et on a vu que dans son sang, il y a des globules blancs qui étaient trop hauts. Il y avait une augmentation des globules blancs et on a fait une piqûre pour la moelle osseuse et on a vu qu'il a une leucémie aiguë.
Et la leucémie, est-ce qu'elle était causée par son infection par le VIH, par le virus du sida?
Non, absolument pas. C'est une maladie du système hématopoïétique et le problème, c'est qu'il y a des cellules souches hématopoïétiques et à la fin, on a seulement des cellules, des globules blancs qui fonctionnent pas et qui déplacent les autres cellules qu'on a bien besoin de. Alors les globules rouges et les plaquettes, ils sont tous déplacés par les blasts. On les appelle blasts. Ce sont des très grandes cellules de ligne blanc qui ne fonctionne plus.
Alors donc, ce patient qui était séropositif depuis une dizaine d'années a aussi une leucémie.
Oui.
Et on décide, bien sûr, comme on le fait toujours dans la leucémie, parle de traiter par chimiothérapie au départ.
Oui. Au départ, il avait une chimiothérapie normale qui est standardisée en Allemagne ou bien dans l'Europe et dans le monde. Et après la chimiothérapie, il était en bonne condition. Mais quand même, c'était une patient assez jeune, avec 42 ans. Et c'est pourquoi on a bien voulu faire une transplantation allogénique pour être sûr qu'il a une chance, pour qu'on puisse être sûr que la maladie ne revienne jamais.
Et quand vous dites transplantation allogénique, ça veut dire une greffe de moelle osseuse
oui.
À partir d'une moelle osseuse d'une autre personne qui a fait un don.
Oui, c'est ça. On a commencé la recherche, c'était une recherche mondiale et le patient, il avait eu bonne chance qu'il a eu environ 200 de donneurs qui étaient identiques et les 200 donneurs, on a fait des investigations parce qu'on s'est dit, ou c'était Dr. Rutter qui avait l'idée, qui a lu dans la littérature qu'il y a des gens. Il y a une exposition avec le VIH pour ces personnes-là, mais ils ne sont jamais affectés par la maladie.
Ils résistent naturellement, hein, c'est ça?
Naturellement, c'est une résistance naturellement. Et on a trouvé qu'une certaine récepteur qui joue un rôle important. Et le récepteur, il s'appelle CCR5. Et on a essayé de trouver un donneur qui a aussi cette mutation naturelle de ce récepteur et ça, la conséquence de cette mutation, c'est que le virus ne peut pas pénétrer les cellules Et comme ça, il y a une résistance naturellement. Donc, et on l'idée... a bien réussi de trouver une donneur qui était identique concernant le problème avec la leucémie. Et de l'autre côté, qui avait la mutation dans ce récepteur CCR5.
Alors, un petit mot quand même sur ce récepteur CCR5, parce que c'est un personnage central dans toute cette histoire. Alors, le récepteur CCR5, c'est une protéine qui se trouve à la surface des cellules et que le virus utilise comme une porte d'entrée dans les cellules en question. Mais ce qu'on a découvert, c'est que certaines personnes donc, sont porteuses d'une mutation, d'une sorte de défaut génétique qui endommage cette protéine, ce qui la rend inapte à laisser pénétrer le virus. Autrement dit, ce défaut permet aux personnes qu'ils portent dans leur gène de résister naturellement au virus du sida. Et la bonne idée des médecins allemands, ça a été de chercher et de trouver un donneur de moelle osseuse qui était non seulement compatible avec leurs patients pour la greffe contre la leucémie, mais qui, en plus, portait cette mutation du gène CCR5. De nouveau, la docteure Ganepola.
La transplantation, c'était en 2006. Alors, depuis 7 jours, il avait une reconstitution normale. Et depuis 7 jours, on a aussi arrêté tous les médicaments, tous les traitements concernant le VIH. Et après la reconstitution, il n'y avait plus besoin des médicaments du VIH qui sont très, très forts et aussi beaucoup des effets qu'on veut pas. Et aussi, il n'y a pas de problème. On a regardé dans le sang, dans le moelle osseuse, dans le système gastro-intestinal et aussi dans le cérébrum. Et on n'a jamais trouvé le virus qu'est-ce qu'on a essayer de trouver,
de ouais.
Chercher. Et il n'y a aussi pas de médicaments jusqu'aujourd'hui. En février, c'était 3 années alors.
Ça maintenant. Fait donc 3 ans, parce que dans l'article du New England Journal of Medicine, on parle de 20 mois. Mais là, vous avez encore plus de recul. Ça fait donc 3 ans que cette personne-là, non seulement est guérie de sa leucémie, d'une certaine façon, mais aussi n'a plus de manifestation de présence du virus du sida.
Plus de manifestations, et ce qui est aussi très important, qu'il n'y a jamais eu besoin des médicaments pour le VIH, ni au moment il n'y a pas aussi, il a aussi pas de médicaments pour la suppression de le système immunitaire, parce que après la transplantation, on a besoin des médicaments pour supprimer le système immunitaire. Et bien, on avait bien avoir peur que peut-être que le virus revient à cause de traitements de suppression, mais c'était tout allait bien et on pouvait montrer dans la publication que le virus ne peut plus pénétrer les cellules du patient.
Alors, ce patient est-il guéri, vraiment guéri de son infection par le virus de l'immunodéficience humaine, le virus du sida? C'est évidemment la question que tout le monde se pose, y compris les éditeurs du New England Journal of Medicine, qui ont donc demandé à un autre chercheur de commenter l'article de l'équipe allemande. Ce chercheur est un spécialiste du sida depuis les tout débuts. Il s'agit du docteur Jay Levy, directeur du laboratoire de recherche sur les tumeurs et le virus du sida au AIDS Research Institute de l'Université de Californie à San Francisco. Jay Levy.
Je crois qu'il n'est pas guéri. Il n'est pas éliminé le virus, mais le virus est maintenu bien par le système, je pense, immunologique.
Mais quand même, ce patient-là ne prend plus de médicaments anti-VIH. C'est quand même exceptionnel parce qu'habituellement, quand on arrête les médicaments, l'infection se resignale de nouveau.
Oui, mais il faut noter que nous avons 5% des gens infectés par VIH qui contrôlent le virus avec le système immunologique.
Mm-hmm.
Ils sont les porteurs vivants et ils prennent pas le médicament antiviral, mais ça dépend de la force de le système immunologique. Et moi, de mon opinion, c'est que avec cette malade, il n'a pas le récepteur pour l'entrée du virus dans les cellules.
Oui.
Mais quand même, il y a toujours un virus qui était là depuis avant la transplantation de cellules de stem.
Oui, oui.
Et alors, je pense que le virus reste là, peut-être dans le cerveau, peut-être dans même dans le cœur. Mm-hmm. Parce que le virus peut entrer dans beaucoup de tissus différents.
C'est la fameuse question des réservoirs du virus. Oui,
le réservoir qui reste dans le malade. Bon, peut-être après 5-6 ans, les réservoirs vont être diminués, mais je pense pas, parce qu'il y a toujours les cellules de long terme qui vivent pour beaucoup d'années. Alors, pour cette raison, je pense, nous avons un cas où le virus peut pas répliquer dans les autres cellules facilement. Alors, ça aide le système immunologique, et le système immunologique avait assez de force, puissance, de contrôler le virus, et je pense que c'est une bonne occasion, je pense, pour le malade, parce qu'il peut arriver au niveau où nous avons maintenant chez nous, parce qu'on a encore des gens infectés. Il y a les gens qui sont infectés depuis 30 ans, qui ne reçoivent pas les médicaments antiviraux et qui vivent très bien avec un système immunologique qui marche très bien.
Donc, pas nécessairement débarrassé de son VIH, le patient de Berlin, mais quand même, son cas est bien plus qu'une curiosité, bien plus qu'une anecdote. Le docteur Régent Thomas de la clinique L'Actuelle à Montréal.
Là, on est dans la vraie science. On n'est pas dans des histoires inventées. On n'est pas dans toutes sortes de thérapies abracadabra. On est dans la vraie science d'un vrai patient qui est infecté, qui a eu un traitement et qui, après 2-3 ans, on ne réussit pas à découvrir le virus. On sait très bien qu'il y a une possibilité, qu'il y a encore du virus ailleurs et ça revient. On sait très bien. On sait très bien que c'est très, très difficile d'éradiquer le virus. On ne dit pas qu'il guérit, mais pensons au cancer à l'époque, ou après ça, on disait après 5 ans, t'es guéri. Et surtout, la porte que ça ouvre à la recherche. C'est l'autre, je pense, grande nouvelle là-dedans, comme de quoi dans la recherche, il y a des liens qui se font de façon parfois qu'on comprend pas. Puis d'avoir étudié des prostituées au Kenya il y a 20 ans, découvrir qu'un certain nombre de gens sont peut-être résistants au virus et d'avoir continué à persévérer dans cette recherche-là. Et ces médecins à Berlin qui ont eu cette incroyable idée de dire on va chercher ce type de porteur qui est résistant au VIH. Alors, il y a eu cette rencontre entre le Kenya et l'Occident qui a amené à ce cas-là.
On revient à cette thérapie qui a été appliquée, donc une greffe de moelle osseuse. C'est pas une thérapie légère. Ensuite, il faut trouver un donneur qui soit compatible au point de vue immunitaire, au point de vue système HLA. Il faut trouver quelqu'un qui serait porteur de cette fameuse mutation bénéfique. On n'est pas dans un modèle de thérapie qui peut s'appliquer à tout le monde, à vos patients ici à la clinique.
Non, absolument, vous avez raison. Puis tous les patients nous parlent de cette histoire-là. Certains nous demandent déjà des greffes de moelle osseuse. Je pense que les patients, en même temps, à travers toutes ces années-là de glutathione, ont compris les réserves qu'on fait ce matin. Mais moi, c'est pas dans ce traitement-là là, actuellement où je vois l'espoir. C'est pas dans le traitement de faire des greffes de moelle osseuse. C'est comment ce cas-là va nous amener à d'autres traitements, à d'autres recherches qui n'impliqueront pas de greffe de moelle osseuse. Alors, la découverte d'une thérapie génétique qu'on parle depuis 25 ans, Yannick, vous savez, hein, ça fait 25 ans. Alors, pour la première fois, il y a peut-être de quoi au niveau de la thérapie génétique qui va se réaliser, que ce soit au niveau des médicaments, de l'orienter vers vraiment travailler plus au niveau de ce fameux gène qui provoque la résistance. Alors, c'est beaucoup plus là, l'espoir, là, que la greffe de la moelle osseuse comme telle.
Alors, il faut le dire, hein, on a déjà un médicament qui agit sur les fameux récepteurs CCR5, mais ce médicament est d'une efficacité quand même limitée. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas de ce côté-là, le côté donc du récepteur CCR5, qu'il faut continuer de chercher. Les explications du docteur Jay Levy du AIDS Research Institute de l'Université de Californie à San Francisco.
Nous avons maintenant les avances dans les approches génétiques qui peuvent affecter la transcription de CCR5 pour que ce gène n'est pas exprimé chez les cellules et le virus ne peut pas entrer dans ces cellules. Bon, on est beaucoup plus avancé qu'il y a 5 ans, mais quand même, nous avons besoin d'autres ans pour améliorer le système. Et je pense que ce cas donne beaucoup plus d'encouragement pour une approche comme ça.
Et on peut l'imaginer, on peut imaginer que ça pourrait se faire, se trouver, ce genre d'approche-là. Vous dites que ça ouvre la voie à des approches innovatrices, hein, quand même. Vous êtes quand même relativement optimiste après avoir lu cet article-là.
Je suis optimiste parce que je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui commencent à faire un focus sur cette direction, diminuer l'expression de CCR5 pour empêcher la réplication des virus chez les autres cellules, chez le malade, par exemple. Alors, je pense bien que dans les ans qui viennent, on va avoir une approche où on peut, par exemple, injecter un véhicule, comme je dis, un virus peut-être, qui est non pathogène, qui contient dans ce gène un anti-CCR5
oui.
qui empêche l'expression de cette gène.
Et on aurait une thérapie génique du sida dans ce cas-là.
Exact. Mais c'est l'espoir. Et cet article et ces cas donnent beaucoup plus d'encouragement pour une approche comme ça.
Alors, c'était le docteur Jay Levy à San Francisco. Et pour la conclusion, voici les docteurs Suzanne Ganepola à Berlin et Régent Thomas à Montréal. Un dernier mot, docteur Suzanne Ganepola. Le patient, vous le suivez toujours? Est-ce qu'il est en bonne santé, en bonne forme?
Oui, on le suit. On le voit au moins une fois de semaine. Et il est en bonne condition et il commence de travailler au moins, je crois, quelques heures par semaine.
Mais il doit se sentir vraiment très, très, très chanceux d'avoir été, d'une certaine façon, guéri et de l'infection par le virus du sida et de sa leucémie.
Oui, c'est ça. C'est bien de le voir et de parler avec lui parce que, oui, il a bien eu la chance.
Où est-ce que ça nous mènera, je ne sais pas. Puis est-ce que ça sera dans un an ou dans 10 ans, je ne sais pas. Mais je pense qu'on revient au discours qu'on avait complètement abandonné depuis 10 ans. Quand Dr. David Oh, je ne sais pas si vous vous souvenez, a été nommé personnalité du Time parce qu'il parlait d'éradiquer le virus.
C'était en 96 quand on a annoncé la trithérapie.
Oui.
Hein?
Et après, on a eu des déceptions parce qu'on a vu que la trithérapie n'éradiquait pas le virus. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'en plus qu'on semble peut-être pouvoir éradiquer le virus par son propre système immunitaire. Il n'y a plus de médicaments, ce patient-là, c'est la différence. Alors, on revient à cette idée qui nous était, je dirais qu'on avait un peu perdu, à cet espoir qu'on avait un peu perdu, que peut-être qu'un jour, on pourra guérir le sida.
Guérir le sida, un rêve réalisable, qui sait, un jour, peut-être.
Recharger un cellulaire en 10 secondes, un ordinateur en 1 minute ou une voiture électrique en moins de 10 minutes, c'est un rêve qui pourrait devenir réalité d'ici quelques années. Deux chercheurs de l'université MIT à Cambridge ont découvert le moyen de recharger une batterie à toute vitesse. Il s'agit d'un nouveau revêtement pour les batteries au lithium, fer et phosphate qui accélère le passage des ions et des électrons entre les deux électrodes de la batterie. En plus de la vitesse de chargement, cette technologie a deux autres avantages. Premier avantage, la batterie résiste mieux au cycle des chargements et déchargements, ce qui veut dire qu'elle dure plus longtemps et qu'elle devra être changée moins souvent. Deuxième avantage, il n'est pas négligeable pour les voitures. Une meilleure conductivité des électrons dans la batterie permettra de meilleures accélérations, un des points faibles actuels de la voiture électrique. Cette découverte fait l'objet d'un article cette semaine dans la revue Nature.
Comment mieux partager les découvertes sur les particules élémentaires entre spécialistes? Cette question, posée il y a 20 ans par un chercheur de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN, a donné naissance à Internet. C'était en mars 89. Le chercheur Tim Berners-Lee soumettait à son supérieur un document intitulé « Gestion de l'information ». Une proposition. Une idée vague mais prometteuse, selon son patron. Bien l'empris, l'année suivante, cette idée avait germé. Berners-Lee avait inventé le protocole d'échange hypertexte HTTP et le langage HTML et donné naissance au World Wide Web. Pendant encore 3 ans, le web est resté un outil de mise en réseau et d'échange d'informations entre scientifiques avant d'entrer en partie dans le domaine public. Le CERN se félicite que plusieurs centaines de millions d'utilisateurs ont maintenant accès à plus de 80 millions de sites Internet.
Eh bien, c'est le moment maintenant de vous présenter l'auteur de la semaine. Aujourd'hui, Chantal de Srivastava accueille une romancière. Dominique Fortier l'a publié il y a quelques mois un premier roman remarqué qui s'intitule « Du bon usage des étoiles », c'est aux éditions Alto. Un roman qui est mis en nomination d'ailleurs pour le prix des libraires et qui sera porté au grand écran par Jean-Marc Vallée, le réalisateur du film « Crazy ». Alors, pourquoi une romancière dans une émission de science? Bonne question. Eh bien, c'est parce que ce livre-là s'inspire d'une histoire bien réelle, la dernière expédition du Britannique Sir John Franklin pour découvrir le fameux passage du Nord-Ouest. Ça, c'était en 1845, un voyage mythique à l'issue tragique d'ailleurs, puisque les quelques 130 marins embarqués à bord de l'Erebus et du Terror ont vraisemblablement succombé aux rigueurs de l'Arctique. 150 ans plus tard, malgré de multiples missions de recherche, on n'a toujours pas retrouvé les épaves de ces deux gigantesques navires. C'est donc cette histoire que nous raconte Chantal de Srivastava et son invitée, la romancière Dominique Fortier, qui ont également convié pour l'occasion l'archéologue subaquatique Robert Grenier de Parc Canada. Robert Grenier, qu'on surnomme, écoutez bien, l'Indiana Jones du Canada, ben oui, et qui cherche encore aujourd'hui ces fameuses épaves.
Dominique Fortier, Robert Grenier, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue aux Années Lumière. On est très choyés de vous avoir ici aujourd'hui. Et c'est une démarche bien spéciale qu'on offre aux auditeurs, puisqu'au cours des minutes qui viennent, on va être à cheval entre deux univers, celui de la fiction, celui de la réalité. Alors, si vous le voulez bien, pour commencer, on va parler tout d'abord de la fiction, parce que votre livre, Dominique Fortier, Du bon usage des étoiles, c'est avant tout un roman. Un roman qui s'inspire néanmoins, il faut le dire, d'événements véritables auxquels s'intéresse sérieusement Robert Grenier, qui est à côté de vous.
Oui, c'est une histoire qui m'a été inspirée par la dernière expédition de John Franklin, entreprise en 1845, quand il est parti avec deux navires à la recherche du passage du Nord-Ouest. Et c'est une expédition qui est presque mythique au Canada anglais, dont on parle beaucoup, on en parle aux enfants dans les écoles et tous les livres d'histoire en traitent aussi, alors qu'au Québec, elle était moins connue, je dirais. Et il reste que c'est une expédition qui est entourée de mystères parce qu'on ne sait pas trop ce qui leur est arrivé. On sait qu'après avoir passé 3 ans dans les glaces, les navires ont disparu. Donc ça faisait une page blanche formidable pour un écrivain parce qu'on avait une situation de départ qui est extrêmement dramatique et très porteuse de toutes sortes d'enjeux, mais en même temps une sorte de mystère qui s'ouvre.
Robert Grenier, vous les cherchez encore aujourd'hui, 150 ans plus tard, ces épaves.
Exact.
Un tel mystère pour vous,
oui,
archéologue?
Oui, je maintiens toujours que si un jour, et je pense ça va se faire, on découvre une ou les deux épaves, il y a tellement de gens qui vont être déçus.
Pourquoi?
Parce que tous ces clubs, il y a des gens dans le monde qui savent où sont les épaves. Il y en a plusieurs qui m'ont dit plusieurs fois.
Ah oui?
Mais en fait, ils ne savent pas.
Mais non.
Mais c'est un mythe, hein? Et le mythe va se terminer à ce moment-là.
Alors, Dominique Fortier, pour donner chair à cette histoire et donner une chair un peu romanesque, vous avez, il faut le dire, bon, laissez aller votre plume, qui est fort belle, mais également consulter des ouvrages, de vrais ouvrages contemporains, anciens, pour vous faire une tête, savoir aussi un peu de quel univers vous parlez dans ce roman.
J'ai essayé de me renseigner le plus possible sur l'expédition Franklin en tant que telle, et on a des documents assez précis, par exemple, qui nous disent exactement ce qui a été embarqué à bord des bateaux, les provisions qui étaient là, on a les quantités très précises de farine, de thé, tout ça. On
sait, qui était gigantesque.
C'est énorme, ces gens-là partaient pour 2-3 ans dans les glaces, ils savaient qu'ils ne reviendraient pas avant ça. On a aussi le nom de tous les matelots qui sont embarqués, c'est quelque chose d'assez touchant, en fait, de consulter ces registres-là. Mais une fois que les navires sont partis, tout à coup, on n'a presque plus rien, en fait, comme documentation solide. On a quelques lettres qu'ils ont laissées au navire de ravitaillement qui les accompagnait jusque dans l'Arctique puis qui les a quittés à ce moment-là. Et c'est les derniers documents écrits dont on dispose, à part une note qui a été retrouvée dans un cairn, une tour en pierre construite, puis qui a été rédigée à deux moments différents. Et le deuxième moment, c'est les hommes qui quittent les navires après 3 ans dans les glaces et qui disent maintenant, on part à pied. Et ça a quelque chose de très désespéré, mais c'est le dernier document écrit qu'on a de cette expédition.
Alors, vous avez choisi, Dominique Fortier, dans votre roman « Du bon usage des étoiles », de braquer les projecteurs, non pas sur Sir John Franklin, chef de l'expédition et commandant de l'Erebus, mais plutôt sur un autre personnage, un autre marin, commandant de l'autre bateau, le Terror, qui s'appelle Francis Crozier. Et vous avez d'ailleurs imaginé ce qu'il aurait écrit dans son journal tout au long du voyage. Voici donc un extrait de votre roman où Francis Crozier raconte les débuts du voyage en mai 1845.
Une semaine à peine et j'ai dû aller dîner trois fois à bord de l'Erebus. Sir John semblant croire qu'il entre dans ses devoirs d'organiser des soupers fins et de veiller à ce que ses officiers ne s'ennuient point. Il me fait envoyer au matin de petites cartes où il est inscrit en lettres soignées que Sir John Franklin, capitaine de l'Erebus, requiert l'honneur de la présence à sa table de Francis Crozier, capitaine du Terror. Comme si je risquais de le confondre avec le commandant de quelque autre navire et de me présenter par erreur sur un bateau où je ne serais pas attendu. Les hommes qui doivent lui rapporter ma réponse, patients, trempés, l'air un peu ahuri devant ces salamalek, tandis que je retourne le carton pour y tracer ma réponse, après quoi ils reprennent la mer afin d'aller livrer le précieux bout de papier. Il faudra que je songe à informer les vigies de convenir d'un code pour éviter ces équipés qui transforment inutilement vos matelots en garçons de poste. On fait bonne chère sur l'Erebus. Cinq bœufs qui nous accompagnaient à bord du Barreto Junior, le navire de ravitaillement, ont été sacrifiés en une véritable hécatombe et accommodés à différentes sources. Hier, nous avons eu un fort bon rôti de côte, suivi d'une sole à la meunière, de carottes et de pommes de terre au beurre et d'un flan aux petits fruits. Le tout servi dans l'argenterie frappée aux armes et aux monogrammes de chacun. On ne pousse pas le ridicule jusqu'à exiger que j'apporte mes propres couverts, mais je mange dans ceux de Sir John, qui a apparemment emporté plus que le strict nécessaire.
Une lecture maison, donc, de l'animateur Gilles Payet d'Espace Musique de votre roman, Dominique Fortier, intitulé « Du bon usage des étoiles », paru chez Alto. Vraiment, là, il faisait vraiment comme ça la navette entre les deux bateaux. C'est vraiment l'Angleterre victorienne dans toute sa splendeur.
C'est vraiment comme ça. Et la raison pour laquelle on sait, en fait, c'est justement que parmi les lettres qu'emportait le Barreto Junior, il y avait une lettre de Francis Crozier qui se plaignait à son ami John Ross que John Franklin n'arrêtait pas de l'inviter à souper. Il trouvait ça insupportable. Il disait « Mais c'est pas sérieux, je peux pas me promener toujours entre les deux navires comme ça. » Et oui, c'était les deux bateaux étaient un peu comme des hôtels sur... Des hôtels sur les vagues. Je veux dire, ces gens-là avaient apporté une quantité d'articles de luxe incroyable.
Des tringles à rideaux, dites-vous, à un certain moment
oui,
dans
oui,
le livre?
Oui, oui, de toutes sortes de choses pour polir l'argenterie, évidemment, parce qu'une fois qu'elle est là, il ne faudrait pas qu'elle se ternisse. C'est...
Robert Grenier, vous êtes archéologue, ça vous fait pas mal d'artefacts à chercher, ça?
Évidemment, si on trouve les navires, il y aura beaucoup de confirmations ou d'informations. Mais c'est fascinant ce qu'elle a fait, parce qu'elle fait ressortir toute la folie, la bêtise de ce monde victorien qui vivait dans une bulle, quoi. Même dans l'Arctique, et ce qui a amené leur défaite.
Parce qu'ils sont allés à leur perte avec tout ce fardeau du luxe qu'ils ont tenté d'amener avec eux, qui était complètement mésadapté.
Et à l'encontre de cette bêtise, il y avait un autre Britannique qui s'est promené dans l'Arctique, qui a découvert le sort des navires et le sort des marins, un nommé John Ray, qui venait des îles Orkney. Mais il venait d'une petite île de pêcheurs au nord de l'Angleterre. Et ce gars-là, quand il est arrivé dans l'Arctique, au début de la vingtaine, au service de la Compagnie de la baie d'Hudson, il a vu tout de suite des Inuits joufflus, en bonne santé, les joues rouges et tout. Il s'est dit, ben ils savent des choses que je sais pas. Il a appris leur langue, il a appris à chasser, il a appris à se vêtir avec le peau des bêtes, il a appris à conduire des chiens Inuits, et il a appris à faire les igloos. Alors, c'est extraordinaire quand on lit le livre de Dominique, de voir le contraste entre ces officiers, qui sont généralement de familles nobles, de familles bien nantis, et qui sont là et qui essaient de perpétuer sur la mer, dans peut-être le milieu le plus hostile au monde, le luxe de la vie à Londres ou dans les grandes villes de
La plupart ne savaient pas ni chasser ni pêcher, n'étaient pas du tout intéressés à l'apprendre. Et il y avait à bord des navires une dizaine de personnes dont la tâche exclusive était de servir les officiers, qui n'étaient pas des matelots, qui n'étaient pas des hommes de mer.
Qui étaient sur un hôtel flottant, mais
voilà,
un hôtel.
Ça fait presque penser au Titanic par la démesure la folie de l'entreprise.
La démesure est également dans les techniques qui sont très présentes dans le roman, parfois avec un aspect un peu cynique, comme peut-être dans ce passage où on entend Francis Crozier, donc dans le roman du Bon usage des étoiles, expliquer un peu quel genre de technique il a à bord de ces deux bateaux.
Sir John énumère ses prodiges techniques sans se lasser, comme il ferait admirer la robe d'un cheval neuf ou la marqueterie d'un secrétaire. Avec le chauffage central, se plaît-il à répéter, grâce auquel le charbon qui sert à alimenter nos chaudières aura un double usage, nous serons aussi douillettement installés que dans les maisons les plus modernes de Park Lane. J'ai pu voir ces chaudières, tandis qu'on les installait, intervient Deveux. Elles ont été prélevées sur les locomotives les plus puissantes. Imaginez si elles suffisaient à tirer des dizaines de wagons comme elles se riront de la glace qui prétend les arrêter. Dans le cercle polaire, la glace fait parfois plusieurs dizaines de pieds d'épais, fais-je remarquer, pour l'avoir souvent observé. 12 locomotives ne suffiraient pas à la briser en ces endroits, et elle peut broyer la coque d'un navire aussi facilement que vous écraseriez entre vos doigts la coquille d'un œuf. Il me regarde un instant sans répondre, comme si j'avais eu l'intention de lui être désagréable ou de lui manquer de respect. Puis Sir John reprend, d'un ton qui n'a rien perdu de son enthousiasme, raison pour laquelle la proue du Terror et celle de l'Erebus ont été renforcées d'acier trempé. Avec votre connaissance des eaux glaciales, nous trouverons bien, mon cher Crozier, un mouillage où nous ne risquons point d'être sur le chemin de ces morceaux de banquise redoutables.
Un extrait donc lu par Gilles Payet d'Espace Musique de ce roman de Dominique Fortier du Bon usage des étoiles paru aux éditions Alto. Robert Grenier, je me tourne vers vous. Il y a un élément très intéressant dans l'extrait qu'on vient d'entendre, qui est une version romancée d'un virtuel journal de Francis Crozier. On parle d'acier trempé pour protéger les coques des bateaux. Vous connaissez bien toute cette architecture navale des bateaux de l'époque. De quoi on parle exactement?
Bien, en fait, la coque de ces navires à l'avant avait déjà été amplifiée de beaucoup. C'était très, très épais en bois de chêne. Et on ajoutait ces plaques de métal, comme un brise-glace moderne. Alors, c'était ce qui est décrit. Le problème, c'était la motricité. On parle là de chaudière, mais en fait, c'est les locomotives au complet qui étaient là.
Mais le faut train pas, à bord, finalement?
Non, c'est parce que c'était des petites locomotives. C'était le début de l'âge de la vapeur sur rail. Et pour les Anglais qui manquaient de moteurs marins à ce moment-là, c'était beaucoup plus facile d'installer une locomotive avec tous ses contrôles. Tout est prêt, tout est déjà prouvé, démontré, et de faire la propulsion du navire avec un axe d'hélice qui venait se boulonner sur la roue motrice de la locomotive et avec une hélice amovible. Ça, c'était une nouveauté. On a les plans au bureau d'un puits qui permettait, quand ils étaient dans les glaces, pour éviter que l'hélice soit écrabouillée, qu'elle soit déformée par les glaces, on pouvait la retirer. Il y avait beaucoup de hautes technologies à bord.
Et cette technologie-là n'était pas adéquate pour explorer cet univers-là à l'époque.
Bien, il s'avère que, finalement, c'est cette technologie qui, semble-t-il, a entraîné la perte de tous ces hommes, en particulier des officiers, c'est-à-dire le besoin d'avoir une très grande quantité d'eau douce à bord, non seulement pour la nourriture et abreuver les gens qui étaient là, mais aussi pour les locomotives, parce qu'on ne pouvait pas prendre de l'eau salée pour les locomotives. Donc, le système de désalinisation de l'eau, qui était en fait, on faisait bouillir l'eau et c'était un alambic, et on créait, si vous voulez, un transfert de plomb à partir de cette immense tuyauterie toute neuve installée avant le départ dans l'eau que consommaient les marins. Et surtout, que consommaient les officiers parce qu'eux, ils étaient...
Mieux traités, soi-disant.
C'est ça. Alors, ils avaient droit à des gâteaux frais, à du pain fait, tandis que les autres avaient tous ces biscuits très durs qu'on donnait aux marins. Et les marins mouraient beaucoup moins nombreux que les officiers. C'est marrant.
Dominique Fortier, quand vous avez écrit ce roman-là, vous avez essayé d'imaginer un univers que vous connaissez. Êtes-vous allée dans le Grand Nord?
Non. Non, je suis jamais allée dans le Grand Nord. Et pour moi, c'est vraiment un territoire imaginé. J'ai essayé de le voir, en fait, comme l'auraient vu les hommes au 19e siècle. Peut-être ça m'a aidée, en fait, de jamais être allée avec mes yeux de femme contemporaine. Mais, donc, j'ai essayé de m'inspirer des récits d'explorateurs de cette époque-là, puis de différents types d'ouvrages scientifiques aussi, pour essayer vraiment de me replonger dans ce qui était leur état d'esprit, puis essayer de retrouver un peu leurs yeux, en fait, pour contempler le paysage.
Alors, on va écouter ce que ça donne, justement. Un extrait où Francis Crozier décrit dans son journal virtuel que vous avez écrit pour lui le paysage qui se présente à lui.
« 20 août 1845. Le Terror et l'Erebus naviguent depuis peu dans des eaux vierges. Nous avançons au milieu d'une carte blanche, dessinant le paysage comme si nous l'inventions au fur et à mesure, traçant le plus fidèlement possible les baies, les anses, les caps, nommant les montagnes et les rivières comme si on nous avait jetés au milieu d'un nouvel Éden, quoique glacial, stérile et inhabité pour sa plus grande partie. » Mais dont il nous appartient tout de même de reconnaître et de baptiser le territoire. Avant nous, le paysage grandiose fait de glace et de ciel n'existait pas. Nous le tirons du néant où il ne retournera jamais, car désormais il a un nom. S'il n'y a devant nous que le vide, le chemin parcouru fourmille d'observations, de relevés, de précisions. Il a rejoint le domaine toujours grandissant de ce qui est nôtre sur cette terre.
Un extrait donc du journal que Dominique Fortier, vous avez écrit pour Francis Crozier, donc ce marin commandant du Terror qui a péri, on le présume, lors de cette expédition en 1845. Un univers que vous connaissez, Robert Grenier, est-ce que ça ressemble à ça? C'est la sensation que vous avez quand vous y allez pour chercher encore aujourd'hui ces épaves de ces deux bateaux?
Oui, j'ai été fasciné par certaines descriptions ailleurs dans le livre où Dominique décrit le paysage. Et moi, ce qui m'a fasciné dans ces paysages, et surtout l'été dernier, à partir du brise-glace, pas loin de Cape Felix, où les navires ont été figés dans la glace, c'est le ciel qui se marie avec la mer. Le ciel est très bas, et on dirait toujours qu'il est appuyé sur l'eau. Et j'ai jamais vu ça nulle part, et c'est conditionné par la température, l'humidité, et c'est propre aux régions arctiques.
Vous le faites dire à un de vos personnages, Dominique Fortier, il rêve de voir une ligne claire entre l'horizon et la mer. Comment vous avez découvert que c'était une préoccupation sans même voir ce paysage de vos yeux?
Je pense que les hommes qui écrivaient au sujet du paysage au 19e siècle devaient en parler aussi dans des termes un peu semblables. Je pense qu'ils avaient de la difficulté à dire où s'arrêtait la mer, où commençait le ciel, parce que c'était blanc et gris et c'était difficile de distinguer. Peut-être ça change pas avec le temps, finalement.
On arrive maintenant à cette période de l'histoire où le tragique entre en scène, l'englacement, donc être pris dans les glaces. Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet-là? Est-ce qu'on sait tout d'abord, est-ce qu'on a la moindre idée de l'endroit où potentiellement ils ont pu commencer à avoir des difficultés, Robert Grenier?
Oui, c'est quand ils sont descendus dans ce passage qui était libre au début, où normalement ils ne devaient pas s'engager, que tout d'un coup, ils se sont fait coincer. Et il semble bien que ce soit ce couloir de la mort se forme dans des séquences d'années assez précises. Et ça se ferme pendant plusieurs années.
Mais ça, il ne le savait pas. Il dessinait au fur et à mesure le territoire à l'époque.
Il y avait quand même des avertissements. Et là, ils sont arrivés à la pointe de l'île King William, qu'on nommait aujourd'hui. Et ils avaient le choix entre aller à gauche et aller à droite. Alors, le passage du nord-ouest utilisable à l'époque et qu'a découvert et utilisé Amundsen, le grand explorateur
au début
norvégien,
des années 1900, non?
C'était le passage de gauche. On est passé là, nous, cet été, avec le brise-glace. Mais c'est un passage très difficile. On ne sait pas si Franklin l'a essayé. Mais ils sont allés du mauvais côté. Et le problème, c'est que pour l'amirauté britannique qui organisait les recherches, ils ont dit, il faut chercher partout sauf là.
Parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas convaincus d'ailleurs que le passage de gauche existait, parce que ça ne s'appelait pas encore l'île du roi William, du roi Guillaume, mais c'était la terre du roi Guillaume, et donc il y avait un débat. Et c'est peut-être une des raisons qui explique qu'ils n'aient même pas essayé de passer.
C'est le fameux John Ray qui, en fait, a démontré que c'était une île, qu'il y avait un passage, mais pas très pratique.
John Reed, puisque vous en parlez, va nous permettre d'arriver à un thème qu'il faut absolument aborder quand on parle de cette histoire, celui des Inuits. Alors, encore une fois, une lecture par Gilles Payet d'Espace Musique d'un extrait de votre roman « Du bon usage des étoiles », Dominique Fortier, donc on l'écoute.
« 12 mars 1846. Pour la première fois depuis que nous nous sommes englacés au large de l'île Beechey, nous avons reçu la visite d'Esquimaux. Manifestement, ceux-ci n'avaient jamais vu d'hommes blancs, ni de bateaux, ni même de bois, car ils ont passé de longues minutes à ausculter les œuvres mortes du navire comme s'il se fût agi de la carcasse d'une baleine. Leur petit groupe se composait de 3 hommes et de 2 femmes, dont l'une était repoussante, presque complètement édentée, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir un large sourire, tandis que l'autre, plus jeune, aurait pu être jolie si ses cheveux et sa peau n'avaient pas été couverts d'une couche d'huile rance, et si tout son être n'avait pas dégagé une puissante odeur de poisson. Ils sont arrivés sur 3 traîneaux tirés par une 20aine de chiens malingres, langues pendantes, auprès desquels notre brave Neptune fait figure de pacha. Hommes et femmes étaient vêtus de peaux de pète, qu'ils portaient à la manière de pelisse, c'est-à-dire le pelage tourné vers l'intérieur, de mitaines et de bottes aussi faites en peau. En les apercevant, les membres de l'équipage, qui pour la plupart ne connaissaient des Esquimaux que ce qu'ils avaient pu en lire dans les récits de Sir John, donc fort peu, si je puis me permettre, se sont mis à pousser des cris de joie, comme à la vue de quelque animal fabuleux. Il est vrai qu'il y a maintenant quelques 6 mois qu'ils n'ont aperçu aucun nouveau visage, et il est normal que l'apparition d'une créature humaine, s'agit-il d'un Esquimau, soit saluée par des explosions d'allégresse. Nos hôtes se sont cependant montrés très circonspects, refusant obstinément, malgré nos gestes et nos exclamations, de s'approcher des navires.
Un extrait donc du roman « Du bon usage des étoiles » de Dominique Fortier. Dominique, vous avez imaginé cette scène ou vous l'avez lu quelque part, que c'est la façon dont on considérait à l'époque les Esquimaux, on ne les appelait même pas les Inuits à l'époque.
J'ai imaginé cette scène-là, mais ça n'a pas été très difficile en fait, parce que presque tous les témoignages qui relate la première rencontre d'équipage avec des Esquimaux, ils ont un peu tous la même couleur et la même saveur. Et
la même condescendance aussi.
Aussi, mais un caractère d'étrangeté absolue. Il y a, parmi les premiers témoignages, je me souviens, il y en a qui racontaient que les Esquimaux s'étaient approchés des hommes en leur demandant s'ils venaient de la lune ou du soleil. Et eux étaient donc absolument étonnés de voir débarquer comme ça des hommes blancs qu'ils n'avaient jamais vus. Mais l'étonnement était aussi grand de l'autre côté, je pense. C'est-à-dire que les Anglais étaient assez mal préparés à ce qu'ils découvraient. Et ils les regardaient pas tout à fait comme des animaux, mais un peu comme des enfants. C'est-à-dire comme des gens qui n'avaient vraiment pas grand-chose à leur apprendre. Et pourtant,
Robert Grenier, vous le savez, puisque vous avez dans votre équipe de chercheurs qui sillonnent les eaux de l'Arctique pour essayer de retrouver ces épaves, des Inuits qui vous sont d'une aide précieuse, il faut le dire.
Il y a un Inuit qui s'appelle Louis Kamukak, dont la famille était reliée aux grands explorateurs Amundsen, Rasmussen, le traiteur irlandais Pat et Gibson, etc. C'est une famille extraordinaire. Donc, oui, il nous aide beaucoup. Il nous éclaire sur les témoignages inuits. Parce que c'est une chose d'avoir le témoignage qui nous parvient par l'entremise d'explorateurs comme Francis Hall et tout. Mais de bien comprendre la signification des termes, de ce qu'on, c'est pas facile.
Le temps n'est pas de la même nature.
Mais quand vous parlez de cette rencontre entre l'homme préhistorique et l'homme moderne, entre l'homme civilisé, selon Charles Dickens, et les sauvages. Même en 93, quand j'étais dans le village de Louis à Joe Haven, c'est un petit village fondé par Amundsen, c'est le nom de son navire, Joe, j'ai donné une conférence dans une école, et je parlais d'archéologie, de navires, d'épaves et tout, et un jeune Inuit, et les profs m'avaient averti, ils ont dit, vous savez, il y a 40-45 ans, ces gens-là étaient encore à l'époque de l'homme des cavernes. Ils se grattaient la tête, ils ne comprenaient pas ce que j'avais expliqué. Ils venaient me voir et ils disaient, je pense que je comprends ce qui est arrivé à vos navires. Ça, ils comprenaient le mot navire ou miyak pour eux. Il dit, je pense qu'ils se sont noyés. Mais ça, ça m'a bouleversé. Vous voyez, dans sa tête, il n'y avait pas le concept de l'épave. Il y avait le concept de gens, de chiens qui se noient.
Mais là, il a compris. C'est une image magnifique.
C'est
le
beau,
bateau qui se noie, oui.
Alors ça, ça m'a bouleversé énormément. Ce qui m'avait moins bouleversé, c'est qu'après donner ma conférence de 5-6 minutes, la première question que j'ai eue de la part de l'auditoire, c'est « As-tu un chien?
» Oui, surtout qu'on va écouter un dernier extrait tiré de votre roman où, qui laisse un peu présager de l'issue horrible, de la fin de vie horrible que certains de ces quelques 130 marins ont dû connaître dans le Grand Nord.
« 18 mai 1848. Il y aura demain 3 ans que nous avons quitté Greenhithe. Nous aurons fait 3 fois le tour du soleil et serons en même temps restés cruellement immobiles. Nous avons monté une tente où nous laisserons ceux qui ne peuvent plus avancer. Nous y avons passé une dernière nuit avec eux avant de nous remettre en route avec l'impression juste, trop juste, de veiller un agonisant qu'on abandonnera le matin à la mort qui le guette. Nous leur céderons plus de la moitié des provisions, des fusils et des outils. Mais ils sont à ce point affaiblis qu'ils seront incapables de chasser comme de pêcher, l'eussent-ils jamais appris, ce qui n'est pas le cas. La plupart ont même du mal à faire quelques pas. Ils ont demandé qu'on leur laisse Neptune, mais à l'éclat de leurs yeux, à ce moment-là, j'ai compris qu'ils n'en désiraient ni la compagnie ni la protection, mais bien la viande. Je ne leur laisserai pas le chien. Je ne leur laisserai pas le chien, mais j'abandonne pourtant à des hommes affamés, d'autres hommes sans défense.
Un extrait donc du roman du Bon usage des étoiles de Dominique Fortier où on entend, hein, on peut présumer de ce qui s'est passé à la fin de la vie de ces marins, Robert Grenier, c'est horrible. On est sûr que ça a été aussi horrible que cela.
Oui, au cours de nos recherches en 2008, nous avons navigué tout autour de l'île de King William et on a retracé en grande partie le trajet de ces gens qui s'échappaient, qui allaient vers la survie. Et c'est phénoménal parce que c'est des centaines de kilomètres sur des littoraux qui, c'est pas des plages de sable là-bas, c'est des plages de gros galets.
Et qu'est-ce qu'ils avaient pour s'orienter à l'époque?
Ben, c'était des marins quand même. Ouais. Ouais. Ça, je ne pense pas. Ils avaient quand même quelques indications. John Franklin lui-même est allé là-bas en 1821-28. À partir de la terre, à partir de ce qui est aujourd'hui les territoires du Nord-Ouest. Donc, ils avaient une idée générale des contours du pays où ils se trouvaient. Et ils savaient qu'il y avait un moyen de s'en sauver en allant à l'embouchure d'une grande rivière, Back Fish River. C'était le point de destination. C'est pas très loin de l'endroit où nous faisons nos recherches sur les navires. Et il semble que ce serait le navire de Crozier lui-même, le terreur qui serait abouti dans ce coin-là et peut-être qu'ils voulaient raccourcir leur trajet en utilisant la voie des eaux par une place qui s'appelle Sherman Inlet qui les amènerait pas très loin de l'embouchure Fish and Back River.
Donc vous avez espoir de trouver là quelque chose quoi dans les prochains mois lorsque vous y retournerez?
Ben écoutez, ça fait 160 ans que cette recherche est en cours.
On dit que c'est la plus importante opération de recherche et de sauvetage de tous les temps.
Oui. Tant par le nombre de navires et d'hommes qui ont participé à ces recherches et la période extraordinaire de décennies où ça s'est fait. Non, c'est extraordinaire. C'est un drame de l'humanité d'une envergure inouïe.
Et ce roman, donc, vous avez pris plaisir à le lire, vous qui connaissez le terrain et qui y travaillez?
Oui, c'est que le roman m'a fait sortir un peu de la réalité des choses, du métal, du bois, des profondeurs, ce qui nous concerne dans notre recherche. Et tout d'un coup, on s'est mis à voir les hommes et toute la société victorienne derrière. Les femmes, les épouses, les amantes, les amis restés là-bas. Et ça a été fascinant pour moi de lire ce livre de Dominique. Un peu comme ce que j'avais perçu en voyant le film Titanic, que je ne voulais pas aller voir à l'origine, le film de James Cameron, parce que pour moi, c'était un peu du Hollywood, mais ça l'était beaucoup aussi.
Ça l'est.
Mais en fait, j'ai réalisé que ce film du Titanic allait nous aider, nous, archéologues subaquatiques, en démontrant aux gens que les épaves, c'est pas seulement une accumulation de métal, de bois, etc. c'est aussi des drames humains d'une envergure incroyable, d'une diversité, d'une complexité incroyable. Et le navire est devenu habité, l'épave est devenue associée avec des drames humains. Et c'est ce que le film, que le livre de...
Qui sera bientôt un film.
Oui, c'est ça.
Mais c'est vrai que c'est d'abord une aventure humaine, puis l'expédition Franklin a ceci de particulier qu'elle est presque exemplaire, je dirais, un peu des travers de la société victorienne, de ce qu'on leur reproche aujourd'hui, c'est-à-dire une certaine arrogance et une fermeture d'esprit, par exemple, une incompréhension face au peuple autochtone. Et je trouve que, par certains aspects, notre société moderne actuelle n'est pas si loin de ça. Oui, je trouve qu'on a une sorte de suffisance qui rappelle un peu les travers des victoriens.
Ben écoutez, tous les deux, sur ces propos remplis de sagesse, je vous remercie infiniment d'être venus aux Années-Lumière pour nous parler de vos regards croisés sur une même réalité. Alors tout d'abord, merci à Dominique Fortier, l'auteur de la semaine, qui vient de publier, en fait, l'automne dernier, le roman du bon usage des étoiles. C'est paru chez Alto. Ça fera même bientôt un film.
Merci beaucoup.
Et également à votre compagnie, donc Robert Grenier, archéologue subaquatique à Parc Canada. Et vous êtes à la tête, il faut le dire, d'une expédition pour retrouver les épaves du Terror et de l'Erebus dont parle Dominique dans son roman. Donc, vous retournez encore cet été dans l'Arctique.
Normalement, oui, au mois d'août, avec le brise-glace, le même brise-glace qui est toujours stationné dans ce coin-là, Sir Wilfrid Laurier.
Bien, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup tous les deux.
Merci.
Et c'est l'heure de Jacques Languirand. Alors Jacques, ce soir, à Parc Quatre Chemins, vous nous faites lire quoi?
Eh bien, entre autres, un ouvrage qui s'intitule « Capitalisme et pulsion de mort ». Une réalité comme un gros nuage noir au-dessus de nos têtes, mais aussi le titre d'un ouvrage donc percutant, à travers le double prisme de Keynes et de Freud.
Merci Jacques.
À la prochaine.
Alors c'est ce soir à Parc Quatre Chemins à 20h et c'est ainsi que prend fin cette édition des Années-Lumière réalisée par Dominique Lapointe, à la technique Nathalie Lucier, les journalistes Hugues de Roussan, Chantal Srivastava et Gaëlle Lucia Berdou. Au revoir Gaëlle, bon voyage. Journaliste au site internet Louis-André Bertrand, chroniqueur Yves Gingras. Un merci à Gilles Payet d'Espace Musique pour la lecture des extraits du roman de Dominique Fortier et au technicien Christian Ferland pour la recherche d'effets sonores. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.